Différemment est votre podcast sur la vulgarisation du monde Apple. L'idée, c'est de vous simplifier les termes techniques qui nous compliquent souvent la vie. On va parler d'usage, de besoins, d'envie et de notre passion pour la marque à travers ses produits, ses services et son histoire. Je vous souhaite une très bonne début d'émission de novembre. En fait, qu'on aurait été supposé d'enregistrer en novembre avec Audrey, mais malheureusement, on a été très très occupé. Audrey, bonjour, comment vas-tu?
Salut Matt, ça va? On a été très occupés et surtout que on s'est dit qu'on allait attendre la conférence d'Apple du 2 décembre.
Ouais.
Ça servait à rien d'enregistrer fin novembre. Donc je sais pas si on a bien fait d'attendre, on va en reparler, mais en tout cas, il y a eu quelques éléments côté application et côté musique qui ont été faits. C'était très discret, mais bon. Voilà, c'est pour ça qu'on enregistre aujourd'hui.
Alors, vous venez d'entendre Audrey, qui est formatrice, autrice et youtubeuse sur Apple, et moi, fanboy invétéré de la marque. On va parler aujourd'hui de toutes sortes de trucs, mais avant tout, je sais pas, pour ceux qui nous suivent depuis longtemps, vous savez qu'Audrey était pas très, très iPad, était encore très, très Mac, et je pense qu'elle a craqué, elle était plus capable, la communauté du iPad était trop forte pour elle, elle a pas su résister. Qu'est-ce qui s'est passé, Audrey? T'as acheté un iPad?
Ouais, en fait, depuis que l'iPad Pro était sorti, donc ça fait un an quand même, j'étais vraiment tentée parce qu'il y a Face ID, il y a le nouveau design, surtout le nouvel Apple Pencil, donc il y avait plein de petites choses qui me faisaient de l'œil, et puis là, je me suis dit, bon, allez, je craque parce que, alors il y a plusieurs choses, en fait, déjà, j'aimerais alléger ma sacoche quand je vais travailler, donc j'aimerais bien emmener juste mon iPad quand je vais chez mes clients. J'ai pas encore osé, je suis en... Le Mac, c'est difficile de s'en séparer tout de suite, donc je vais bien faire des... Je vais prendre les deux, je pense, pendant quelques temps, et puis le Mac finira par rester à la maison. Donc il y a déjà, par rapport au travail, il y a le fait que je voulais me remettre au dessin, donc je voulais... J'avais bien envie de tester Procreate, donc c'est une application pour dessiner. Mmh. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Oui, il y avait aussi le fait que mon écran, j'utilise un écran externe quand je suis au bureau, qui est parti au SAV. Et du coup, je me suis dit, ça serait pas mal d'avoir deux écrans le temps que ce problème-là soit réglé. Donc là, je travaille depuis quand on est dimanche? Depuis jeudi. Je travaille avec l'écran de l'iPad Pro et l'iPad et le Mac à côté. Et ça marche plutôt pas mal.
Ouais.
Je suis assez contente.
Ouais. Pour vrai, cette fonctionnalité de double écran sur l'iPad, c'est franchement chouette. Pour ceux qui savent pas, depuis la dernière version de Catalina et la dernière version de l'iPad, vous pouvez utiliser l'iPad, en fait, étendre l'affichage de votre écran sur l'iPad. Et en plus, vous avez certaines applications qui utilisent les avantages du pencil, du stylo de Apple. C'est vraiment chouette. Moi, j'ai pas eu encore la chance d'essayer certaines applications entre Mac et exemple Photoshop sur Mac et l'utiliser avec mon pencil. Est-ce que tu as eu la chance de le faire?
Mais non, en fait, c'est même pas Sidecar que j'utilise en plus.
Ah non?
C'est vrai que ma façon dont j'ai expliqué, ça faisait penser ça, mais c'est surtout que là j'écris pas mal en ce moment, donc j'écris en fait sur l'iPad avec mon clavier. J'ai un petit clavier Apple sans fil. Donc déjà, écrire sur un iPad, c'est hyper, hyper sympa parce qu'on est en fait, l'application utilise tout l'écran, donc on n'est vraiment pas dérangé. On est vraiment en mode focus sur l'application qu'on utilise, donc sur l'écriture, par exemple. Moi, j'utilise Ulysse, donc j'écris par rapport au Mac, où tu sais, t'as les mails qui arrivent, la notification, les machins. Là, en fait, on est quand même assez focus sur ce qu'on est en train de faire, donc j'aime beaucoup écrire sur l'iPad. Et puis non, j'utilise le Mac à côté pour faire mes captures d'écran, pour faire tout ce que j'ai besoin de faire pour illustrer ce que je suis en train d'écrire. Donc c'est plutôt... En fait, j'ai l'impression que je sépare un peu les usages.
Ok, ouais.
Bien sûr, je suis en phase de test. Mais là, depuis quelques jours, en fait, je trouve ça vraiment sympa de travailler sur un petit écran, parce que c'est mon écran externe, c'était un 27 pouces.
Ouais.
Et là, je suis même en train de me dire que quand ils vont revenir du SAV, je crois qu'ils vont me faire un échange, est-ce que je vais m'en servir ou pas? Tu vois, c'est fou. Hein,
ouais, ouais.
Mais je trouve ça hyper intéressant. Donc oui, voilà, j'ai craqué.
Bon, ouais, on est content que tu nous rejoignes, nous, tous les fanboys de iPad. Est-ce que tu as la chance d'avoir essayé, je sais pas, moi, le port USB-C pour brancher des périphériques? Est-ce que tu as mis ton clavier? Est-ce que tu as une souris avec ton iPad? Est-ce que tu as été jusque-là?
Alors j'ai avant que mon écran justement LG parte SAV, j'ai branché l'iPad Pro dessus, donc ça en USB-C direct, donc ça a été reconnu immédiatement. Donc j'avais une recopie d'écran, pour l'instant c'est un peu limité, mais la qualité était super bonne, parce qu'en plus c'est un écran, l'écran LG c'est un écran 4K, donc quand même avec une résolution élevée, et en fait l'affichage donc en recopie de l'iPad Pro vers l'écran était vraiment très très bonne, très bon. Qu'est-ce que j'ai essayé? Oui, j'ai essayé clé USB aussi avec mes petits adaptateurs que j'utilisais déjà sur le MacBook Pro. Le clavier, il marche en Bluetooth. Donc, bah écoute, non, pour l'instant, tout fonctionne super bien, quoi.
Et dans ton rôle de ben, on va dire ça de personnes qui dépannent les gens en technologie, j'imagine qu'avec un iPad, tu peux peut-être avoir plus de façons de dépanner les gens maintenant en leur montrant des trucs concrètement sur ton iPad aussi.
Oui, voilà, en fait, ce qui me manquait aussi, c'était tous les gestes liés à iPadOS, forcément, puisque j'avais pas d'iPad récent. Il fallait aussi, de toute façon, pour mon métier, que je sache tous les nouveaux gestes des iPad Pro qui n'ont plus de boutons, et donc qu'il faut faire glisser vers le haut, sur le côté, enfin bref, tous les nouveaux gestes qu'il y a sur ces appareils. Et puis, ce qui m'a décidé, en fait, ce qui m'a convaincu, c'est que j'étais allée chez une cliente qui avait un vieux Mac. Un MacBook Pro, je crois, de 2011 ou 2012. Et elle m'a dit, il va être temps que je change, je voudrais acheter un autre Mac, etc. Et en fait, quand j'ai listé tous les besoins qu'elle avait, ben, je lui ai fait acheter un iPad Pro, un grand, un 12 pouces, un 12,9 pouces. Et en fait, ben, elle est hyper contente. Et quand je suis retournée, lui configurer et tout ça, je l'ai utilisé du coup, parce qu'il a fallu transférer tous ses fichiers de son Mac sur l'iPad, enfin, via le cloud, etc. Et en fait, j'ai utilisé du coup son iPad pendant presque 2 heures et je me suis dit, mais waouh, j'en veux un quoi. Enfin, en fait, c'est vraiment en l'utilisant dans le concret, en faisant des choses que moi je fais tous les jours, transférer des fichiers, enfin, des choses, tu sais, pas juste aller sur Internet ou regarder des mails, quoi, faire des choses un peu plus poussées, que je me suis dit, l'iPad Pro, du moins, il suit la route, quoi. Enfin, il tient bon, quoi.
Ouais, et puis même des iPads de 2017 encore tiennent très bien la route là en termes d'usage. C'est assez incroyable ce qu'ils arrivent à faire avec si peu de mémoire, en fait, mémoire RAM quand on compare avec un Mac. Et puis les usages que tu peux faire en termes de création, des fois, c'est assez surprenant. Puis faut dire aussi que les applications sont très bien optimisées, hein, aussi pour l'iPad. Fait que ça, c'est chouette. Puis je te dirais que moi, j'ai acheté le Air de dernière génération. J'ai hésité entre le Pro, mais je me suis dit que la différence de prix est tellement grande ici que je préférais prendre un Air avec le stylo, avec le pencil de première génération. Puis ça fait très très bien. Je suis vraiment content. Et il y a plein d'applications qui sont vraiment chouettes. Et pencil, je l'utilise maintenant dans mon quotidien et ça donne une autre dimension de précision qu'on n'avait pas beaucoup avec le doigt. Toi, t'as pas trop connu les iPads, mais tu connais l'iPhone, tu peux comprendre que le doigt, c'est pas aussi précis qu'un pencil.
Ben, en fait, j'ai eu plusieurs iPads, hein. J'ai eu le tout premier, le tout premier, d'ailleurs, qui ressemble un peu à l'iPad Pro en termes de design et d'épaisseur, etc. J'ai eu un iPad mini et puis j'ai dû avoir un iPad Air aussi. Donc, si tu veux, c'est justement en ayant eu ces 10 dernières années 2, 3 iPads que pour moi, ben, en fait, je m'en servais au début et puis au bout d'un moment, il finissait dans un coin parce que bah, c'était quand même assez limité, quoi, si tu veux, avant iPadOS, avant iOS 13, on était quand même. Quand je dis. Enfin, je me fais taper sur les doigts quand je dis que c'était un gros iPhone, mais pour moi, c'était un peu ça, quoi. Parce qu'on pouvait rien faire de très poussé, quoi. Je sais pas, voilà, comme brancher des clés USB, des choses comme ça, ou même utiliser, enfin, des périphériques, etc. Je trouve que, en fait, ça a libéré l'iPad, quoi. Et c'est pour ça que j'y suis revenu aujourd'hui, quoi.
Ouais. Bon, ben écoute, bienvenue dans le monde. Moi, de mon côté, on a fait des achats de Black Friday et ben ma copine a dit adieu à son 6S et on est rendu avec un XR comme toi pour elle. Elle est très très satisfaite. Et puis ben oui, c'est vrai ce que tu disais dans les derniers épisodes, ben l'appareil photo du XR est quand même assez stupéfiant par rapport à un 10 que j'ai moi-même. J'ai essayé le 11, j'ai eu la chance d'essayer un 11 et un 11 Pro. Ben le XR tient encore très très bien la route. En tout cas, j'ai pas vu de différence en fait en plein jour pour les photos. Je trouve ça excessivement contente par rapport à ça. Et ben elle a enfin dit adieu au Touch ID. Maintenant elle est avec Face ID et c'est juste délirant, les gestes comme ils sont intuitifs, tu sais, avec la barre du bas pour switcher d'une application à une autre. Ça elle l'a adopté tout de suite.
Mais oui, mais tu vois, Face ID, pour moi, ça a été, que ce soit pour le déverrouillage, pour les mots de passe, etc., c'est aussi pour ça que j'ai pris un iPad Pro, parce que pour moi, c'était, comme j'ai un 10R depuis un an, je me suis dit, mais je vais pas retourner avec un iPad avec Touch ID, enfin, ça me paraissait contre-productif, et puis, enfin, voilà, c'est sûr qu'une fois qu'on a testé et utilisé Face ID, c'est dur de revenir en arrière, quoi. Ah, c'est cool, alors si elle est contente,
Ouais, et puis moi de mon côté, des AirPods Pro, je me suis vraiment fait plaisir pour la période. C'était même pas Black Friday parce qu'il y a pratiquement aucun produit Apple qui est en rabais ou en spécial pendant cette période-là. Moi, je me suis acheté des AirPods Pro. Je t'avoue que je suis mitigé encore par rapport aux AirPods Pro. Je suis pas encore totalement convaincu. Il y a des affaires sur lequel il fait très très bien, tu sais, au niveau praticité, c'est autant pratique que les AirPods normaux. L'autonomie est vraiment meilleure que les AirPods normaux. Par contre, qualité du boîtier, ça fait longtemps que j'ai été déçu par Apple par la qualité de fabrication d'un truc. La charnière craque. À craque comme si tu avais un produit chinois de très très bas de gamme et j'ai été en vérifier quelques-uns parce que je me suis dit c'est peut-être un défaut du mien et non, la charnière craque. C'est assez stupéfiant. Évidemment le prix tu y goûtes hein, quand tu y passes avec les taxes chez nous, ça revient à peu près à 370 $ canadiens, ce qui est à peu près 280 €. On y goûte un peu sur le prix. Mais la charnière déçue, et encore une fois, je vais le dire, les micros, c'est de la grosse merde. Mais vraiment, à puissance 1000, à quel point c'est vraiment mauvais. Par contre, ben le son et puis l'isolation sonore, la cancellation, le noise cancellation, en français, ça serait la réduction de bruit, c'est ça, hein? La réduction de bruit est juste stupéfiante. Et juste pour ça, ça vaut franchement la peine de les essayer. Tu te sens vraiment isolé, tu te sens vraiment en pleine concentration. En tout cas, pour moi, j'ai vraiment adopté ce truc. C'est vraiment chouette par rapport aux AirPods, parce que il m'arrive de prendre l'autobus et les AirPods, c'est juste vraiment mauvais parce que je suis obligé de mettre le son au maximum puis j'entends pas bien. Tandis qu'avec les AirPods Pro, ben là, du coup, tout est coupé, j'entends bien la musique, je suis pas obligé d'avoir le son au maximum. Vraiment, dans des endroits où vous avez beaucoup de bruit, je vous les recommande vraiment, vraiment, vraiment chaudement.
Oui, c'est ça. En fait, tu abîmes moins tes oreilles puisque le son est pas à fond. Et donc, en fait, le micro, il est peut-être très bon pour capter les bruits externes et du coup te faire une bonne isolation phonique, quoi. Oui, c'est un peu ça. Mais quand tu dis qu'il est mauvais, c'est quand, par exemple, tu veux enregistrer ta voix avec.
Ouais, exactement. En communication, il est vraiment mauvais. J'ai acheté pendant Black Friday. Tu connais la compagnie Xiaomi, qui est une compagnie chinoise qui, on dit souvent, c'est le Apple chinois. J'ai acheté des AirDots Pro 2, la dernière génération, c'est l'équivalent des AirPods chez Xiaomi, mais pour une trentaine d'euros, quarantaine d'euros, t'as tous les avantages des AirPods normaux, mais t'as quand même des micros vachement supérieurs et un petit peu une meilleure autonomie. Alors je te dirais que je suis un petit peu ambivalent sur les AirPods en général, sur le prix, mais pour ce qui est des micros, c'est vraiment du tout faux à la grandeur de la gamme, parce que dans la même catégorie, il y en a d'autres qui font à beaucoup moins cher, beaucoup mieux en termes de son. C'est ça qui est vraiment décevant.
Donc tu dirais que le micro, il est pareil que sur les AirPods normaux, en fait?
Tout aussi mauvais, ouais, exactement.
Ouais, d'accord.
Vraiment, vraiment. Le son, par exemple, des deux est très bon, ouais.
Donc, tu les as gardés quand même pour le côté isolation, quoi.
Oui, parce que d'abord, l'autonomie est vachement bonne, et puis l'isolation sonore est juste stupéfiante. T'as trois modes. T'as un mode normal, t'as un mode isolation de bruit, et t'as un mode qui appelle Clarity, je m'en rappelle plus en français ce que c'est là, mais ce troisième mode-là fait que il prend tous les bruits extérieurs puis qu'il les envoie dans une oreille. Alors, d'aucuns diront, ben oui, retire tes écouteurs, ça va faire la même chose, mais non, des fois, t'as juste besoin d'écouter un petit peu les bruits ambiants pour, après ça, sans avoir à redéfaire tout le temps les écouteurs. Alors, c'est vraiment quand même bien fait, ces trois modes-là. Puis évidemment, ben, ce qui est vraiment chouette, c'est comment ça perd facilement sur un iPhone. Ça perd facilement sur un Apple Télé, un iPad, c'est vraiment chouette pour ça. Aussi sur ton MacBook, c'est vraiment fait dans l'écosystème, c'est chouette. On voit l'autonomie du boîtier, on voit l'autonomie des écouteurs, le son sonore que vous avez dans les oreilles est très bon. Même avec cancellation de bruit, ça pêche pas sur la qualité sonore. Et il y a une affaire qui est vraiment surprenante, c'est lorsque vous mettez, parce que c'est des intra-auriculaires, lorsque vous les enfoncez dans votre conduit auditif, il y a comme une espèce de valve qui se dégage, et à chaque fois que vous le mettez, vous avez l'impression que vous allez le perdre, mais non, c'est les AirPods qui font une espèce de contrôle de pression de l'air dans l'oreille, et c'est vraiment tout à fait confortable par rapport à d'autres intras que j'ai pu essayer. C'est vraiment stupéfiant pour ça. Confort, on y est, praticité, autonomie, qualité des écouteurs est vraiment là, le son est très très bon, et puis évidemment la cancellation de bruit est excessivement bonne.
Donc ouais, donc en fait ils sont un peu chers par rapport à enfin le micro en fait fait baisser la note, quoi, du coup ouais, sinon le reste a l'air bien, mais c'est vrai que c'est cher. Après c'est cher par rapport à la concurrence qui fait à peu près les mêmes produits, on est un peu dans la même gamme de prix, hein. J'avais vu des Sony, comparatifs.
Ouais.
Et du coup, une question peut-être idiote, mais quand tu changes d'appareil, t'es pas obligé de te déconnecter sur l'un pour l'utiliser sur l'autre? Parce que moi, j'ai ce problème-là avec mon clavier, alors ça m'agace.
je t'avoue que moi, à chaque fois, je vais dans les paramètres du Bluetooth puis je me reconnecte, mais j'ai pas besoin de faire un appairage ou quoi que ce soit. C'est pas si compliqué que ça, là. Mais ça se fait pas automatiquement. Faut vraiment faire une action d'un appareil à un autre.
Ouais. Ouais, est-ce que moi, le Magic Keyboard, le petit clavier d'Apple que j'utilisais sur mon MacBook Pro, du coup, j'utilise avec l'iPad Pro, pardon. Et du coup, je dois à chaque fois faire, quand je veux passer de l'un à l'autre, je dois carrément faire oublier cet appareil.
Ouais.
Et après, le reconnecter, enfin, le rejumeler entre les deux. Donc, je pense que c'est lié à la version du Bluetooth du clavier. Mais bon, peut-être que ça viendra... dans une prochaine mise à jour, je sais pas.
T'as pas à faire ça avec les AirPods, ça c'est certain. Puis autre dernier avantage des AirPods Pro, c'est que ça se recharge sur le même socle de recharge que votre iPhone, c'est sans fil. Alors ça aussi c'est vraiment chouette. Maintenant je suis tout sans fil, c'est ma montre, mon téléphone, mes écouteurs, j'ai plus rien à brancher, je dépose sur les plaques à chaque fois. Puis avec le fait que ma copine est rendue avec un XR, on a acheté un peu plein de plaques partout. Et puis ben on s'amuse pas, mais en fait on dépose notre téléphone, puis c'est un gain de temps, c'est vraiment apprécié. Puis en même temps, c'est un petit peu plus esthétique que des fils qui traînent partout.
Ok, cool. Bon ben, merci pour ce retour, parce que c'est vrai qu'ils ont été assez encensé, j'ai l'impression, c'est AirPods Pro. Il y a eu beaucoup de ventes, hein. Je crois que ça a été ça a été un gros lancement. Donc c'est cool d'avoir ton avis, vu que tu avais déjà les AirPods classiques.
Ouais. Ouais. Puis je peux comparer avec d'autres que j'ai Bluetooth. Ils sont, pour vrai, tu sais, le boîtier est excessivement petit. Alors il y a beaucoup d'ingénierie là-dedans. La batterie est vraiment bonne. Tu sais, il y a beaucoup d'avantages. Mais moi en tant que podcasteur, j'aimerais ça pouvoir avoir un son de micro intéressant. Puis pouvoir les utiliser, et puis ça marche pas. Puis l'autre affaire qu'on vient de tester, toi puis moi, juste avant l'émission, c'est d'essayer de mettre les AirPods Pro pendant qu'on fait du Skype à partir d'un Mac, et ça a été absolument pénible, une latence et incroyable de plusieurs secondes maintenant, Audrey, quand on se parlait.
Oui, on avait vraiment moi, je devais attendre, je te parlais, Et j'attendais au moins 5 secondes que tu répondes, donc ça veut dire qu'il y avait un gros décalage. Mais ça, le Bluetooth, de toute façon, en audio, c'est toujours compliqué. Comme je te disais, moi, j'ai un casque Marshall qui fonctionne en Bluetooth et en filaire. C'est pour ça que je l'ai choisi, d'ailleurs. J'ai pris l'option Bluetooth et filaire. Je voulais pas que du Bluetooth, parce que justement, quand je fais du montage vidéo ou des choses comme ça, en Bluetooth, il y a toujours un décalage et c'est pas agréable, quoi. Donc le câble a encore un peu d'avantages.
Ouais, effectivement.
C'est moins joli, mais bon, au moins c'est pratique.
C'est ça, effectivement. Ouais. Alors pour cette émission, on ferait une petite émission juste pour juste pour se rattraper du mois de novembre, on va dire comme ça. Pendant le mois de novembre, on a eu le droit à un MacBook Pro 16 pouces avec un retour de clavier mécanique. C'est fini les claviers papillons comme j'ai, hein, c'est ça, le 2018, c'est des papillons, Audrey.
Et oui, comme moi aussi, j'ai sur mon 2016. Ouais, ben en fait, c'est fini. Pour l'instant, du moins, ils ont fait un peu marche arrière sur le MacBook Pro 16 pouces, puisqu'ils reviennent au mécanisme ciseau, contrairement au mécanisme papillon qui a fait parler de lui depuis. Enfin, je sais plus combien de générations d'appareils qui sont équipés ouais. avec ce mécanisme qui ne font qui. Oh là là, je trouve même plus les mots tellement tellement je le trouve. Enfin, en plus, personnellement, j'ai la première génération de mécanisme papillon. Donc, en fait, mon clavier est hyper bruyant. Il y a parfois des touches qui fonctionnent plus. Autant au début, j'avais pas de problème, mais c'est vrai qu'à l'usage, ben en fait, il y a certainement des petites poussières qui rentrent. Mais on a beau les nettoyer, ça. Enfin bref, je pense que c'est de toute façon c'est une erreur ce clavier papillon, c'était une erreur. Donc là avec le MacBook Pro 16 pouces, ils ont ressorti le mécanisme ciseau qu'ils ont sur les Magic Keyboards, enfin sur les claviers qu'on avait avant et qui équipaient avant les MacBook Pro, avant 2016. Alors les touches sont un peu, ils ont voulu garder quand même le fait que les touches soient à peine épaisses, tu vois.
Oui.
Elles sont un peu plus petites, donc il y a un peu plus d'espace, mais du coup, les premiers retours sont très bons, que ce soit au niveau du confort d'utilisation, du retour de touche quand tu tapes, et aussi on espère que ça va pas s'encrasser comme le mécanisme papillon, quoi.
Et toi, est-ce que tu as fait...
Donc après...
Est-ce que tu as envoyé, toi, ton MacBook à un SAV pour le réparer, le clavier, ou t'es capable de le réparer toi-même?
Non, on peut pas parce que c'est il change tout le top case, quoi.
Okay.
En fait,
okay.
il change carrément la moitié. Enfin, il garde que l'écran. En fait, il change tout le bas de l'appareil. Et du coup, non, c'est pas possible. Et puis, je suis sous garantie. J'avais pris comme c'était les premiers MacBook Pro de cette nouvelle génération en 2016. J'avais pris une extension de garantie. Donc là, je suis couverte jusqu'en avril 2020, il me semble. Donc, j'ai prévu d'aller à il faut que je fasse 200,
ouais.
250 km pour aller dans un Apple Store qui me change ça. En sachant que est-ce que je vais avoir un remplacement dans la journée, je sais pas. Et c'est une raison qui m'a fait aussi acheter l'iPad Pro parce que je me suis dit si mon Mac part 2 semaines, il faut que je puisse continuer à travailler, j'ai qu'un Mac. Donc voilà. Donc en fait oui, mais de toute façon, je vais le faire changer certainement avant la fin de la garantie pour repartir bien, et je crois qu'il y a une extension de garantie de... Parce que nous, en Europe, la garantie standard, c'est 2 ans, 1 an constructeur et 1 an revendeur. Et là, Apple a rallongé de 2 ans cette garantie. Donc tous les gens qui ont un MacBook Pro avec clavier papillon, ils ont 4 ans de garantie, 2 ans sur tout l'appareil, et 2 ans supplémentaires uniquement sur le clavier. Après, ben, on sait pas. c'est vraiment non mais franchement c'est un truc qui m'agace énormément parce qu'en fait c'est des machines comment on va les revendre si le clavier marche pas bien si Apple prend plus en charge le remplacement c'est compliqué on est avec je sais plus combien d'appareils qui sont qu'on va pas pouvoir revendre et puis qu'on va garder même si faudrait utiliser un clavier externe enfin c'est vraiment un très gros problème et je trouve ça un peu honteux qu'Apple n'ait pas trouvé une solution efficace, quoi.
Et c'est quand même incroyable qu'après quatre générations de claviers, parce que moi, j'ai la troisième papillon sur mon 2018, et c'est quand même assez incroyable ce revirement de situation. C'est vraiment un aveu d'impossibilité de réparer cette technologie-là. Et moi, j'étais en Apple Store, par contre. J'ai essayé le 16 pouces au niveau du clavier, pas longtemps, hein, juste pour frapper. Et j'ai eu le même confort en termes de frappe que mon 2018. Alors, je pense qu'ils ont réussi à avoir une façon de reprendre une technologie fiable, mais d'avoir une petite course comme on a maintenant sur les nouveaux MacBooks. Jusqu'à maintenant, ce qu'on avait sur les MacBook Pro. Et ouais. un truc intéressant, moi j'ai eu le 17 MacBook Pro 17 pouces pendant longtemps, pendant plusieurs années, et c'était un fabuleux bétail. C'était à peine portable en fait, c'était énorme.
J'en ai eu un aussi.
Ouais, et tu te rappelles hein, comment c'était gros et lourd avec en plus ouais. le port CD sur le côté.
Oui, exact.
Et là, j'ai été essayer le 16 pouces et le fait qu'il y a plus de lecteur CD, que les écrans soient un peu plus bord à bord, ben on dirait pas qu'on est à juste un pouce de différence de nos vieux bétail à 17 pouces qu'on avait. C'est assez bien fait, hein, le 16 pouces. Moi, je vous dis que je vais peut-être regarder ça l'année prochaine ou dans 2 ans, peut-être.
Et juste pour finir sur ce clavier, il y avait aussi les MacBook, ouais. Les tout fins là, qui avaient ce clavier papillon. Les MacBook Air de 2018-2019 aussi. Donc en fait, il y a plusieurs appareils et il y a plusieurs générations qui sont équipées de ces claviers. Donc je pense que s'ils avaient pu trouver une solution, ils l'auraient trouvé. Sauf que, à part remplacer tous les ordinateurs par des nouveaux modèles, c'est pas possible quoi. Enfin... si tu veux, c'est un peu... Enfin, je trouve ça vraiment abusé parce que c'est des appareils qui coûtent plus de 2000 euros. Ouais. Je veux dire, c'est pas un PC à 300 euros qu'on achète et on se dit, bon, bah, s'il fait un an, ça sera bien et après, on changera. Là, en général, on achète des machines pour 5 ans, 6 ans, voire plus. Ouais, moi, je suis un peu... Ouais, je suis déçu, quoi, parce que je m'étais dit, je renouvellerais mon matériel... juste avant la fin de la, je sais pas, 6 mois avant la fin de la garantie pour dire de vendre sous garantie. Puis ben au final, c'est pas dès que les gens vont. En fait, ce qui est compliqué, c'est que si les personnes sont au courant, est-ce qu'ils vont acheter un MacBook Pro de 2016 avec un clavier papillon catastrophique? Je pense pas. Et s'ils sont pas au courant, on va pas. Enfin, c'est compliqué de leur dire oui. Par contre, le clavier risque d'avoir des problèmes. Tu peux pas vendre un produit comme ça si t'es honnête, quoi. Si tu te dis, tu vois, c'est compliqué. C'est vraiment une situation compliquée, quoi. Et il y a quand même pas mal de gens qui sont touchés, quoi.
Bon, après tu peux revendre ta dernière année de garantie en l'expliquant, t'as une année de garantie. Et si tu vois qu'il y a quelque chose qui va mal, ben va le faire réparer. T'sais. C'est peut-être l'aspect mitoyen, mais je suis d'accord avec toi.
Oui, mais il y a pas de solution.
Non.
Enfin, je veux dire là, moi si j'y vais, déjà j'ai ma touche Shift qui une fois sur deux fonctionne pas. Si j'y vais là, ils vont mettre un clavier version 2018, alors ça serait mieux de mettre la version 2019, donc la génération juste après le tien. Mais bon, après, dans 2 ans, ils vont remettre un 2018, mais 2 ans après, ça serait le même problème. Si tu veux, c'est un truc sans, il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution viable à long terme, quoi. Donc c'est,
ce que je serais curieux de savoir de la part des auditeurs, c'est est-ce que c'est 100% des MacBooks qui ont des problèmes, en fait 100% des MacBooks à clavier papillon qui ont des problèmes, ou c'est un pourcentage et c'est dû à une certaine façon de l'utiliser ou à certains environnements qui fait que ça bloque, parce que on entend qu'il y a des problèmes, mais ça me semble pas 100%, Audrey.
Non, c'est pas 100% des gens, mais à partir du moment où t'es touché par le problème. Ouais. Et moi, franchement, ça fait, donc, je l'ai acheté en printemps 2017, donc, tu vois, ça fait 2 ans et demi. 95% du temps, j'utilise un clavier externe, heureusement. Et j'ai quand même une touche Shift qui marche, quand je tape des chiffres, une fois sur deux, ça tape pas, quoi. Donc, si tu veux, j'ai un environnement assez sain, je mange pas au-dessus de mon clavier, tu vois, enfin, je fais quand même attention, je dépoussière, et en l'utilisant que 5% du temps sur 2 ans et demi, il y a quand même des touches qui marchent pas, donc si tu veux, c'est... Ouais. Peut-être que ils vont me le remplacer et que j'aurai pas le problème, je sais pas, je veux pas être de mauvaise foi non plus, mais je trouve qu'Apple a pris un peu ce problème-là par-dessus la jambe et a pas... Ouais, bon, ben, on étend la garantie de 2 ans, puis voilà. Ben voilà. je pense qu'Apple a beaucoup mieux géré d'autres problèmes, même des années plus tard parfois sur des MacBook Pro et des cartes graphiques qui posaient problème. Là, on Bah ouais, il s'en lave un peu les mains, quoi, je trouve. C'est mon avis après. Hein.
Bon, on va essayer de te redonner le sourire en parlant de la dernière keynote qui a eu lieu la semaine dernière, en fait. Sur, en fait, c'est un événement un peu à la remise de prix Grammy Awards ou les Oscars, mais là, c'était pour les applications et les jeux. C'est la deuxième année, je sais si je ne m'abuse, qu'ils font ça. Et là, on a remis plusieurs prix, hein, c'est ça?
Oui, alors là, il y a eu alors, je sais pas si tu veux parler des prix musicaux, c'était... Alors, attends que je retrouve, parce qu'en fait, oui, c'est ça, Apple annonce les tout premiers Apple Music Awards, donc c'est les remises de prix pour les... Je pense que c'est les gens qui ont le plus de succès au niveau du nombre d'écoutes sur Apple Music,
oui.
Ou au niveau des ventes, je sais pas si... donc, il y a quelques artistes. Alors, est-ce que tu les as la liste des...
Alors, moi, j'étais sur les applications. On va partir tout de suite sur la liste des artistes qui est plus basse, je pense, dans le...
Alors, attends, je l'ai. Artiste de l'année, Billie Eilish.
On connaît pas.
En fait, ouais, non, mais c'est ça le problème, c'est que là, je vais annoncer leur nom, mais je ne les connais pas. Donc, c'est un peu bizarre, mais... Révélation de l'année. Ah si, Lizzo, je sais pas comment ça prononce, Lizzo. J'en ai entendu parler de cette chanteuse. Et puis ouais, après, non mais j'ai l'impression d'avoir 70 ans. Quoi. Je suis tellement pas branchée musique récente que oh là là. Donc en gros, Apple décerne des prix désormais pour les récompenser les meilleurs artistes musicaux.
Ouais.
Nous, ce qui nous intéresse clairement, c'est les apps. Hein. On va pas se mentir.
Oui.
Je sais pas si t'es d'accord.
Oui, je suis d'accord avec toi. Passons à la meilleure app de l'année pour l'iPhone, la meilleure app 2019 pour l'iPhone, qui se nomme Lux. Spectre Camera. Camera de la compagnie Lux Optique, qui est une application avec l'intelligence artificielle pour améliorer la qualité la capture des longues poses et l'amélioration des photos en général. Pour l'application iPad de l'année, c'est Flow by Moleskine, qui est une application de carnet numérique, de prise de notes. Alors évidemment, si vous avez un pencil, ça va beaucoup mieux pour ça. Moleskine, qui fait d'excessivement belles applications. Ils en ont une, je vous dis d'aller voir du coin d'œil, d'une gestion d'agenda avec des tâches mélangées à travers ça, qui est vraiment juste fabuleuse. Moleskine, qui est la fameuse compagnie de carnets, des beaux carnets en papier italien.
Ouais.
C'est franchement des belles applications. Je trouve que c'est une compagnie qui va à l'ère du numérique de manière incroyable. Ils ont aussi des espèces de stylos qui enregistrent automatiquement appairés avec une application de Moleskine pour les vieux carnets papier, en fait les carnets papier normal. Vous pouvez acheter ce stylo-là et automatiquement avec l'application qui va bien dans Moleskine, vous allez pouvoir mettre le dessin que vous faites sur du papier et sur votre iPhone ou sur votre iPad. Bref, Moleskine, travail récompensé, une belle application et il gagne le prix de la meilleure application de l'année 2019 avec ça. Autre créateur que j'aime vraiment de plus en plus, la compagnie Sheriff Labs avec Affinity Publisher sur Mac. Ils ont gagné la meilleure application Mac de l'année. C'est une application de mise en page je vous dirais, pour des affiches, pour des magazines, des choses comme ça. C'est fait par Affinity, la compagnie qui est en train de gagner beaucoup, beaucoup d'amour de ma part, parce que j'ai switché moi Photoshop pour Affinity Photo et je suis ravi tous les jours de payer que $60 versus $60 par mois, je pense, chez Adobe maintenant.
Bah oui, c'est ça. Ouais, en fait, ils mettent un coup de pied dans la fourmilière parce que du coup, ils disent à Adobe, nous, on sort une suite de logiciels qui concurrente à InDesign, Photoshop, Illustrator. On sort trois applis et au lieu de faire un abonnement mensuel, et ben nous on les vend 50 ou 60 euros ou $60 et puis la licence est acquise une bonne fois pour toutes quoi. Donc ça c'est sûr que ils ont du succès aussi pour ça et en plus c'est vrai que leurs apps sont vraiment vraiment bien foutues. Moi aussi j'ai dû quitter ma suite, j'avais une vieille suite CS6 d'Adobe sur mon Mac et puis Catalina m'a la mis à la corbeille, on va dire. Je me suis dit, bon, je reste sous Mojave pour utiliser ma CS6 ou je passe à Catalina. Et puis, je me suis dit, bon, allez, il faut aller de l'avant. Donc, voilà. Donc, je suis en train de tester les versions d'essai d'Affinity Publisher et Photo. Et comment ça s'appelle, le troisième?
Je me rappelle plus. C'est une version... En fait, ils ont un Publisher, c'est plus pour l'édition imprimée.
Ouais, la mise en page, ouais.
Ouais, Photo, c'est plus pour remplacer Photoshop. Et puis, ils ont une version, évidemment, Illustrator pour faire du vectoriel, dessin vectoriel. Mm-hmm. Moi, j'ai utilisé Photo et je suis vraiment, vraiment ravi. Je l'ai en plus sur mon Mac. Et ce qui est vraiment chouette, c'est que tout est respecté, les calques, tout va bien. Il reprend des vieux fichiers PSD de Photoshop sans aucun problème avec les filtres sur les calques, tout, c'est vraiment chouette. Si vous êtes comme nous sans le sou et que vous devez peut-être changer votre version de Photoshop, bah, allez essayer l'application d'Affinity, en fait de chez Sheriff Labs. Il y en a trois et qui vont vraiment bien et comparé à un abonnement de Photoshop d'Adobe. Pour mes usages, je vois pas de différence. Toi, est-ce que tu vois des choses qui t'agacent dans les applications par rapport à Photoshop?
Non, justement, en fait, pour mes besoins, j'avais clairement pas le budget et puis l'envie de mettre aussi cher dans un abonnement. Non, pour ce que j'ai à faire, c'est-à-dire des petites mises en page, mon catalogue de formation, enfin des choses basiques ou les vignettes de mes vidéos YouTube, ça remplit tout à fait les fonctions dont j'ai besoin. Donc non, c'est vraiment... merci Sheriff Lab de proposer des alternatives adapté au petit budget et puis aux petits besoins aussi au final.
Ouais, effectivement. Et puis voilà. On dit petits besoins, j'ai dans mon émission de l'Eclectic Show, j'ai mis des spécialistes en photo qui ont fait des comparatifs avec Photoshop et Affinity Photo, et vous avez pas à rougir, hein, vous allez avoir des fonctionnalités et de la capacité de prendre des photos, du RAW, des choses très 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 évolué. Moi, mes usages sont pas aussi évolués que vous pouvez faire des fois en photo, mais pour ce que j'entends et ce que je vois comme comparatif, c'est vraiment assez chouette. Ça peut aller très très loin. Toujours dans la remise de prix d'application, Apple Télé est un écosystème à part entière maintenant, et c'est Apple TV de la compagnie The Explorers Network qui est un inventaire visuel de la faune, de la flore à travers des photos et des vidéos, qui est une belle interface. Je l'ai pas essayé sur mon Apple Télé. J'ai été plutôt aspiré par Apple Télé Plus cette année, dans les dernières semaines. On s'en reparlera peut-être après. Et pour les tendances d'application 2019, la narration simplifiée. Alors, il y a Anchor qui gagne. Je veux juste soulever juste un petit clin d'œil à tous les streetcasters qui peuvent m'écouter. Il y a beaucoup de personnes qui utilisent Anchor, qui est une application pour faire des podcasts simplifiés, qui a été racheté dernièrement par Spotify. Il y a Unfold Creative, il y a Stellar qui a gagné aussi des remises de prix, Spark Camera de DayWorks et Over de Inc. Évidemment, la dernière que je vois, Mojo Stories Editor, que je ne connais pas, qui ont eu des clins d'œil. Et évidemment, Apple, c'est plus juste des applications ou de la musique, c'est aussi des jeux. Alors, jeu d'iPhone de l'année, Sky, Children of the Light, qui a gagné un prix, je le connais pas. Est-ce que tu joues, toi, un petit peu, Audrey, sur les plateformes mobiles?
En fait, j'ai pas encore eu le temps de tester Apple Arcade. Et j'ai eu, un abonnement d'un an gratuit à Apple TV+.
Oui.
Puisque comme j'ai acheté un iPad Pro, enfin quand on achète un matériel, je crois jusqu'à la fin de l'année, on a un abonnement d'un an gratuit. Donc non, malheureusement, je ne peux pas en dire quoi que ce soit, parce que j'ai pas encore eu le temps de jouer ni de regarder les séries.
Alors moi, je
suis une mauvaise élève.
C'est pas grave. Pour l'application iPad de l'année, c'est Hyper Light Drifter. C'est une application style rétro gaming, en fait look rétro gaming en 16 bits. Et jeu Mac de l'année, c'est Gris. Je la connaissais pas du tout. C'est un jeu de plateforme puzzle au graphisme somptueux. Je lis la description. Ouais. Une véritable œuvre d'art numérique. Et Apple Télé, oui, c'est vrai, il y a cette plateforme-là aussi pour les jeux. Wonder Boy, Dragon Strap, Ça non plus, je ne connais pas. Ça a l'air d'être un jeu de combat. Et pour le reste, ben c'était à peu près le tour des choses, des remises de prix des applications de l'année. Toi, Audrey, est-ce que tu l'as suivi? Moi, à part le communiqué de presse dans Newsroom, j'en ai pas entendu beaucoup plus parler de ça, cette remise de prix.
Mais non, parce qu'il n'y a pas eu de rediffusion en direct ni visuelle. Donc en fait, c'était un peu en petit comité. J'ai juste lu moi les comptes rendus des différents sites d'Actu Mac, Actu Apple à ce sujet. Mais non, c'était très. Je pense que c'est le milieu assez fermé des artistes et puis des producteurs. Hein. C'était pas un truc grand public. Après, l'avantage, c'est que ça nous permet de découvrir, des nouveaux jeux, des artistes. C'est un peu comme en France, on a les Victoires de la musique qui permettent de découvrir des artistes aussi. Donc, ils sont récompensés parce que ça fait plusieurs années qu'ils font de la scène ou tout ça. Et puis, nous, on les découvre bien souvent le soir où ils ont leur remise de prix. Donc là, c'est un peu le cas avec les applis que t'as cité, du moins pour ma part. Ou pour les artistes qu'on ne connaît pas malgré nous, notre jeune âge, on ne connaît pas, on peut pas tout connaître de toute façon.
Moi, pour ma part, j'ai commencé certaines séries sur Apple TV+, en fait trois. Je vous avoue que je suis assez impressionné de la qualité, je m'y attendais pas. Il n'y a pas beaucoup de téléséries sur Apple TV+ en ce moment. Ils y vont en mode un épisode ou deux épisodes par semaine. Ça m'agace un petit peu, mais je comprends un peu la stratégie d'essayer de combler le vide parce que dans le fond, ils ont absolument rien pour le moment de plus que les autres. Alors, ils préfèrent comme envoyer ces téléséries de manière granulaire. Moi, j'ai écouté The Morning Show. J'étais un grand fan de Friends et The Morning Show avec Jennifer Aniston, Winterspoon. Et Steve Carell, vraiment, si comme moi, vous aviez certains a priori sur ce que Jennifer Aniston a pu faire dans les dernières années, ben The Morning Show va complètement effacer ce qu'elle a pu faire. C'est un peu dans la lignée de Me Too, les scandales qu'il y a pu avoir aux États-Unis dans les médias. Vraiment, The Morning Show, c'est mon gros coup de cœur de la fin du début d'hiver ou de la fin de l'automne, on va dire ça comme ça, avec Jennifer Aniston. Vraiment chouette. Snoopy, clin d'œil pour Snoopy parce que mes enfants ont commencé à la regarder. Qualité d'image, qualité de production, ça c'est vraiment chouette. Et l'autre télésérie pour enfants. Alors j'ai pas évidemment, j'ai plein de téléséries parce qu'en plus de ça, il y a Disney Plus qui est arrivé. Alors on n'arrête pas d'en avoir des nouveaux fabricants de téléséries. Ouais. Mais franchement, si vous êtes dans l'écosystème Apple et que vous avez votre année gratuite de Apple TV+, vraiment incroyable cette télésérie-là, Morning Show, et je serais très curieux de d'échanger avec toi si tu l'écoutes parce que c'est vraiment quelque chose qui est pas habituel aux États-Unis, les femmes au pouvoir, les femmes qui ont le contrôle. C'est assez chouette de voir ça comme télésérie. Alors Audrey, moi pour vrai, j'aimerais ça en débattre peut-être avec toi de Morning Show si tu l'écoutes ou si tu peux l'écouter un jour, parce que c'est franchement assez, on n'est pas habitué de voir ce genre de télésérie-là, en tout cas en Amérique du Nord. Est-ce que tu as vu les previews?
Non, j'ai pas encore eu le temps de regarder, mais je me t'ai dit que je regarderai ça pendant mes vacances de fin d'année là. Donc oui, on en parlera avec plaisir. Ouais.
Bon, excellent. Alors donc Audrey, si tu veux bien, je pense qu'on a fait le tour des actualités. Grosso modo, j'irai tout de suite aux réflexions personnelles. On s'est dit qu'on voulait faire un petit épisode d'une heure et je pense qu'on serait rendu là. Qu'est-ce que t'en penses?
Oui, de toute façon, on a reprogrammé un rendez-vous dans 15 jours pour faire un épisode un peu plus long pour cette fin d'année. Donc oui, en effet, on avait dit un petit épisode aujourd'hui. Oui, donc la pensée réflexion personnelle du mois. Personnellement, j'avais marqué que cette année, j'offrais du chocolat à Noël et rien que du chocolat équitable. Je vais essayer de trouver ça. Bio et équitable, tant qu'à faire. Et puis oui, parce que je trouve que il y a quand même beaucoup de cadeaux tous les ans au pied du sapin et acheter et offrir quelque chose qui se mange et qui fait plaisir, c'est toujours un objet en moins, j'ai envie de dire acheter et puis
qui va polluer peut-être un jour.
Ouais, peut-être. Après, bon, je suis un peu focus en ce moment sur les objets qui m'entourent aussi. J'essaye de faire un peu du vide et puis je vais pas dire de garder l'essentiel, mais voilà, de réfléchir en encore un peu plus à, bon, est-ce que j'ai vraiment besoin de ça, ou est-ce que si j'offre ça, parce que c'est vrai que les cadeaux, c'est toujours un peu délicat. Est-ce que, par exemple, pour les enfants, est-ce que ça va vraiment être utile, est-ce que ça va être utilisé, c'est toujours un peu spécial quand on a beaucoup de vénias comme moi, donc le chocolat, ça va être bien pour cette
du
année.
Du chocolat. Moi, de mon côté, j'avais deux actualités et je vais faire le lien sur un thread que tu as mis sur Twitter. Je veux pas embarquer non plus dans la politique, mais bref, je vais te les dire. Première, c'est que Apple va rallonger les congés parentaux de ses salariés américains. Pour la petite nouvelle, pour l'information en fait, c'est que ici en Amérique du Nord, il y a pas, à part au Québec, on va dire, ou au Canada, il y a pas des gros avantages en termes de congés parentaux. C'est quelques jours, la femme accouche et après ça, ben, démerdez-vous à trouver une crèche, une gardienne ou avec votre enfant, vous retournez travailler. Tout ce qui est avantages sociaux, c'est plus les entreprises qui gèrent ça que le gouvernement, en fait. Et Apple a décidé, lui, de rajouter des congés. Alors, on parle de plusieurs semaines maintenant pour les congés parentaux pour ses employés. Et ce que je trouve bien, c'est qu'ils ont une notion aussi pour ceux qui veulent adopter, dans le cas où ils augmentent aussi l'apport en argent, parce que quand on veut adopter, c'est pas juste des congés que ça prend, mais c'est aussi de l'argent hein, pour faire tous ces frais-là ou tous les frais qui sont générés. Alors, Apple va aider aussi ses salariés. Et la deuxième actualité d'Apple, toujours, c'est que il y a une crise du logement hein, en Californie. J'ai des gens que je connais qui commencent à aller travailler en tant que développeur en Californie à gros salaire et ils sont très, très surpris que même si tu as un salaire très élevé, ben, tu te retrouves à être obligé d'habiter un appartement à deux ou trois personnes pour pouvoir le payer. Et c'est un gros problème pour la Silicon Valley et Apple va débloquer 2,5 milliards pour contrer la crise du logement. Alors, c'est dans le 2,5 milliards, il y a une donation de 300 millions de terrains à San José. Il y a plusieurs trucs là-dedans. Il y a des prêts qui sont faits. Et ce qui me fait rire, à cette période où en France, on voit dans l'autre bord du continent, sinon la crise qu'il peut y avoir par rapport aux retraites, la crise qu'il peut y avoir par rapport au gouvernement, les caisses des employés de qui ont travaillé toute leur vie, qui ont été gérés par le public. On voit que ici en Amérique du Nord, les gros conglomérats, les grosses compagnies, essaient de prendre le relais par rapport à tout ce qui est aide sociale, avantages sociaux, santé, je dirais sociale des gens. Je trouve ça chouette ce que fait Apple et c'est peut-être quelque chose qu'il faudrait peut-être envisager peut-être de votre côté du continent, peut-être d'avoir des grosses compagnies ou de favoriser les compagnies parce qu'on est toujours les premiers à dire ils font de l'évasion fiscale, ils font ci, ils font ça, mais en bout de ligne, aussi ils redonnent une certaine richesse à leurs employés.
Ouais, c'est sûr, ouais. Mais après, la France, tu sais, c'est un pays compliqué. Il y a beaucoup de... Il y a toujours des remises en question sur tout. Il y a des réformes tout le temps. Enfin, en fait, si tu veux, au lieu de me présenter ça comme une adaptation, ouais. On peut être pour ou contre, c'est toujours des réformes. Donc, en gros, je sais pas, je vais dire ces 20 dernières années, enfin... parce que j'ai 38 ans, donc je peux un peu juger des 20 dernières années, c'est quand même, on est toujours un peu perdant quand même au final à chaque fois qu'il y a des réformes. Donc il y a quand même beaucoup de gens qui se mobilisent en ce moment contre la réforme des retraites notamment, et parce que clairement, je me suis un peu renseignée, on est quand même, on va être perdant quand même au final. Donc on va tous être perdant au final. Donc c'est toujours compliqué. Après, est-ce que c'est le système qui est arrivé à bout qui est arrivé à ses limites, il y a tellement de choses qui rentrent en compte que c'est sûr que peut-être que des sociétés comme pas forcément Apple, mais des grosses sociétés pourraient intervenir, mais ça, en France, tu sais, on tient beaucoup à l'aspect état social, l'État qui doit jouer son rôle. Enfin, c'est franchement peut-être que les États-Unis, tu sais, là, c'est en Californie, donc c'est géré État par État.
Ouais.
On est un seul État, mais un grand État avec beaucoup de
monde. Ouais. En fait, Bon, là c'est pour Apple aux États-Unis, mais il y a aussi certaines choses qui vont se faire au Canada. Alors, c'est pas juste en Californie. Pour la crise du logement, oui, c'est juste en Californie. La Californie, c'est quand même, je sais pas exactement, vite comme ça, j'ai pas le chiffre, mais c'est une puissance mondiale. Ça fait partie des grandes puissances. Juste l'État de Californie. Alors, c'est pas juste un État parmi tant d'autres. Lui, il est vraiment particulier. Il y a beaucoup beaucoup de richesses par rapport à ça. En fait, je relis ça à ce que j'ai entendu. On va faire un petit peu d'économie rapidement. Il y a une espèce de regroupement des 30 plus grosses entreprises, ça s'appelle le Round Table, je pense, si je ne m'abuse, et où il y a, je pense, à Jeff Bezos, il y a Apple, Jeff Bezos d'Amazon, Apple, il y a des grands de l'industrie, et ils ont décidé de commencer à se questionner sur ce que redonnaient en termes de richesse les compagnies dans les dernières années, parce qu'en bout de ligne, eux autres aussi, d'un certain point de vue, coupaient beaucoup dans le social de leurs entreprises pour améliorer les rendements. Et ils se rendent compte, après plusieurs années, que ça n'a pas été si bon que ça de couper, parce que ils ont des problèmes pour recruter, leur compagnie, à force de couper, il n'y a plus forcément des gens qui peuvent suivre, et ainsi de suite, ce qui fait que je vois le mouvement d'Apple. Il y a aussi certains mouvements du côté de chez Amazon, il y en a aussi chez Google. Je vois des grands de la Silicon Valley qui font des changements, et je trouve ça franchement bien ce que je peux voir en termes de il y a peut-être des choses à s'inspirer, mais en même temps, ils ont fait beaucoup d'évasion fiscale, c'est pas forcément illégal, c'était immoral un peu, mais ils commencent à redonner, en fait.
Après, si tu veux, quand on parle d'évasion fiscale et d'Apple, par exemple, on dit « Ouais, ils payent pas leurs impôts en France, etc. » Je pense qu'en fait, ils sont dans la légalité complète. Mmh. C'est pas... Enfin, quand on dit Apple, je veux dire, on va pas frauder. Ce qu'il faut, du coup, c'est changer les lois. C'est qu'il y a un moment aussi... par des mécanismes, des montages financiers et tout, Apple ne paye pas d'impôts en France, c'est parce que les lois le permettent au final. Mmh. Tu vois? C'est qu'il y a un moment, il faut se remettre en question et se dire, bon, ok, on est contre l'évasion fiscale, donc changeons les lois et interdisons, faisons en sorte que ça soit pas possible de le faire et que du coup, ça devienne illégal. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. C'est qu'à partir, on peut pas critiquer, tant que c'est illégal, on peut pas critiquer des montages financiers et tout, je le défends pas du tout, mais, tu vois, il y a un moment, c'est sûr qu'Apple, c'est la plus grosse boîte du monde, ils vont pas frauder pour gagner 200 millions d'impôts, tu vois, ils sont pas dans la fraude, ils sont dans le montage autorisé par certaines lois. Donc, changeons les lois, c'est tout. c'est mon point de vue là-dessus, parce que c'est vrai que j'en ai parlé avec pas mal de gens il y a quelques années déjà, parce que c'est pas tout récent. Et c'est vrai qu'à partir du moment où on me dit, c'est légal ce qu'ils font.
Ouais, mais c'est pas forcément moral, c'est ça, c'est pas forcément moral.
Ben oui, mais en fait, est-ce qu'une entreprise doit être morale? Enfin, tu vois, après, maintenant qu'ils sont riches à milliards, oui, ils peuvent redonner un peu. C'est vrai que c'est cool. Moi, je trouve ça bien. Mais bon, enfin, de toute façon, c'est toujours bien. Ça fait un peu peur que des sociétés fassent le boulot des États. Ouais. C'est quand même
particulier.
C'est particulier. Ça veut dire qu'on remet en compte, on remet en question le rôle des États par rapport au rôle des entreprises. Mais les entreprises comme Apple sont bien plus riches que
certains États, ouais.
Nombreux États dans le monde.
Effectivement.
Oui. Donc la tendance s'inverse. Donc c'est sûr que si eux peuvent devenir, on va dire, des partenaires sociaux, parce que c'est presque ça. Quand on parle de logement ou de congé parental, c'est l'aspect social de nos vies. Moi je trouve ça bien. Enfin, je trouve ça bien. Après, il faut, je sais pas, j'ai jamais travaillé pour Apple, tu vois. Mais est-ce que les gens qui bossent en Apple Store, ils sont payés convenablement? Enfin, tu vois, ça pourrait aussi juste commencer par ça. Est-ce qu'Amazon, Amazon en France, ils ont vraiment mauvaise réputation parce que leurs employés sont pas bien traités? Et avant de donner des millions de dollars, est-ce qu'on peut juste bien payer et respecter les gens qui travaillent pour nous,
quoi? En Apple Store, ici au Québec, pour ceux à qui j'ai parlé, que je connais, ils sont bien payés, ils ont des bons avantages sociaux et ainsi de suite, là. Alors, effectivement, c'est pas non plus des emplois, puis je vais essayer de clore la boucle que j'ai initiée. C'est pas non plus des emplois où on fait une carrière en étant conseiller chez Apple Store non plus. On comprend que c'est souvent des étudiants, des jeunes ou des retraités qui font ça, mais quand même ils sont pas sans le sou de un, et de deux, ils ont quand même beaucoup d'avantages en termes de sociaux, maladies, médicaments et ainsi de suite. Ce qui fait que c'est un bon employeur ici, en tous les cas, en Apple Store. Maintenant, je sais pas ailleurs dans tous les pays, c'est pareil, mais en Apple Store ici, c'est franchement bien.
Bon, merci.
Ouais. Je vous ai préparé.
On va faire du positif tout à l'heure.
Ouais, c'est ça. Je vous ai préparé un petit cadeau de Noël en terminant l'émission. Je vous ai préparé une liste d'écoutes. Si vous êtes sur Apple Music, ben vous allez pouvoir l'écouter. C'est la liste de Noël d'Apple différemment. C'est moi qui l'ai composée sans l'aide d'Audrey. Alors j'ai mis beaucoup d'artistes canadiens, québécois. Si Audrey, t'as d'autres artistes que tu veux que j'ajoute à cette liste là, elle va être disponible dans les notes de l'émission. Si vous avez besoin de musique de Noël, si vous avez besoin de mettre de l'ambiance, ben vous allez en avoir pour beaucoup, parce qu'il y a à peu près une quarantaine de musiques que j'ai sélectionnées et que j'ai ajoutées là-dedans. Alors, il y a beaucoup de Canadiens, il y a beaucoup de Québécois, mais il y a quand même un certain classique internationaux qui sont là-dedans. Je vous laisse en profiter pour la période des fêtes. Et de toute façon, nous, on enregistre dans 2 semaines un nouvel épisode où on va parler, ce fois-ci, moi j'ai un dossier assez gros sur General Magic. Ce qui aurait pu être le iPhone 20 ans avant. Dans le prochain épisode, Audrey aussi va nous apporter super beaucoup de news, et peut-être qu'elle aura déjà mangé son chocolat équitable. Qu'est-ce que t'en penses? On se retrouve dans 2 semaines, Audrey?
Ouais, on fait ça.
Cool, ciao, ciao.